Bonjour à tous, Boker Tov, Shavua Tov. Et alors voilà, aujourd'hui, on va faire une petite étude particulière. Attendez, je me mets. Voilà, ça sera mieux. Hop là, suivez-moi. Voilà! Donc, petite étude particulière aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien, parce que, vous le savez, le dimanche soir, nous avons notre étude du livre de Shemot. Et le problème, c'est que par une mauvaise manipulation de ma part, oui, je suis impardonnable. Eh bien, le cours de la semaine dernière a été enregistré du début à la fin, mais sans son. Donc, eh bien, je vais aujourd'hui refaire le cours qu'on a fait la semaine dernière, dimanche soir dernier, pour qu'aujourd'hui, eh bien, ceux qui le veulent puissent continuer à suivre avec nous sans aucun problème. Alors, il sera évidemment plus court que la semaine dernière, puisque, eh bien, il n'y aura pas forcément d'interaction. Donc voilà. Alors, allons-y, nous sommes dans le livre de Shemot au chapitre 25, verset 1, à savoir donc le début de la paracha de Terouma, Perek Kafei, verset Aleph, Pasuk Aleph. On va parler ici de la construction du Mishkan. On va parler de la construction du Mishkan, l'ancêtre du Beth Amikdash, et tout de suite, la question se pose, car effectivement, cette paracha, ce chapitre, eh bien, fait suite directe à la fin de toute l'épopée qui s'appelle Mahamad Arsinaï. On a terminé le Mahamad Arsinaï dans la paracha de Mishpatim, à la fin de la paracha de Mishpatim, et donc, eh bien, directement, on arrive par la paracha de Terouma. Et la question qui se pose, c'est la suivante. Tout d'abord, quand on parle du Mahamad Arsinaï, du dévoilement de Dieu au Mont Sinaï, eh bien, on peut se poser la question, pourquoi n'a-t-on pas parlé du Beth Amikdash dans les 10 commandements? Pourquoi n'a-t-on pas parlé du Beth Amikdash, Bichlal, dans tout le concept qui s'appelle Mahamad Arsinaï? Alors, dès le départ, je dis que ce n'est pas vraiment vrai, puisque à la fin de la paracha de Yitro, juste après les 10 commandements, eh bien, on va oui parler de Misbach Adama Ta'aseli, et on va déjà nous parler des fondements du Misbéach, de l'autel sur lequel on va pouvoir faire les sacrifices. Donc, il y a quand même un bribe de Beth Amikdash qui est mentionné à la fin des 10 commandements. Mais le fait que ce ne soit pas clairement énoncé, eh bien, a amené certains à penser que le Beth Amikdash n'est pas du tout a priori, mais est a posteriori. C'était par exemple l'avis de Avraham Yehoshua Heschel, le grand philosophe et penseur juif du XXe siècle aux États-Unis, qui pensait que. Alors, vous connaissez tous peut-être son livre sur le Shabbat, Les bâtisseurs du temps. Pour lui, le judaïsme crée des temples dans le temps. Les goïms, eux, créent des temples dans l'espace, mais nous créons des temples dans le temps. Le Shabbat, les fêtes, c'est son idée. Alors, qu'est-ce que c'est pour lui le Beth Amikdash? Il est conscient qu'il y a eu le Beth Amikdash. Il dit, eh bien, le Beth Amikdash, c'est, comment dire, un compromis suite à la faute. C'est-à-dire qu'après le veau d'or, eh bien, nous avons montré que nous n'étions pas capables de nous attacher à Dieu de manière abstraite. Donc, il nous faut quelque chose de plus concret. On a connu en Égypte les temples d'Apis et d'Osiris. Eh bien, voilà, Dieu nous demande de faire un temple. C'est un compromis avec l'idolâtrie. Voilà l'avis d'Abraham Yehoshua Heschel. La Kedusha Tamakom, la sainteté de l'espace, n'est pas pour lui une priorité. C'est, bon, bah, c'est comme ça, et voilà. Alors évidemment que le judaïsme ne peut pas accepter cela. C'est un avis qui est intéressant au niveau de la réflexion, mais qui ne tient pas. Il est vrai que Rashi va nous expliquer dans cette paracha le concept de En Mugdam Umeuchar Batorah, qu'il n'y a pas de chronologie dans la Torah. En disant que la paracha de Terouma était Tetzaveh, eh bien, en fait, se sont passés après la paracha de Kitissa, c'est-à-dire après l'histoire du veau d'or. Et que donc après l'histoire du veau d'or, on a reçu l'ordre de la construction du Mishkan. C'est ce qui va amener donc Abraham Michel à dire ce qu'il dit. Mais, où est l'erreur? Eh bien, l'erreur, elle est double. Car s'il est vrai qu'il n'y a pas En Mugdam ou Meouchar Batorah, c'est vrai qu'il peut y avoir marqué des choses avant d'autres, alors qu'elles se sont passées après. Aval Yesh Mugdam ou Meouchar Besefer à Torah. Et ça, c'est très important de le comprendre. Il y a une chronologie dans le livre de la Torah. C'est-à-dire, eh bien, lorsque Dieu dicte la Torah à Moshe, il y a oui un ordre qu'il choisit de lui dicter. C'est-à-dire que le fait que la paracha de Terouma apparaisse avant l'histoire du veau d'or, eh bien, ça veut dire quelque chose. Et donc, ce n'est pas anodin que cette paracha se passe avant. Ça va peut-être aller renforcer l'avis des commentateurs qui disent que ça s'est vraiment passé avant. Mais vous comprenez qu'il s'agit ici de dire que pour le lecteur, pour celui qui reçoit la Torah, il doit voir le Beth Amikdash comme étant a priori et non pas a posteriori. Le Beth Amikdash n'est pas a priori pour corriger nos fautes, mais il est d'abord pour se rapprocher de Dieu. On peut se poser la même question au niveau du Korban. Est-ce que le Korban, c'est pour la Kapara ou c'est pour la Kirva? Le mot Korban, sacrifice, vient du terme Karov, proche. Après, il y a aussi une dimension de Kapara s'il y a besoin. Vous savez, dans la célèbre chanson Dayenu, Day Dayenu de Pessah, eh bien, en fait, on nous parle plein de choses de Mahalot que Akadosh Baruch Hu nous a fait. Et à la fin, on dit Dayenu, on termine en disant Ilu ichnisanu le'eretz Israël velo bananu et bet amikdash ou et bet amechirab Dayenu. Et ça s'arrête là. Seulement juste après, la Haggadah reprend la chanson et termine en disant en d'autres termes, Rabotai, eh bien, cela veut dire qu'il y a deux conceptions du Mikdash. Un Mikdash idéal où il n'y a pas de faute et un Mikdash a posteriori, après la faute. Il y a Teruma Tetzave qui nous est présenté avant la faute et il y a Vayakel Pekoudé, après la faute du Vaudor dans le Sefer HaTorah, qui nous est présenté après la faute. Donc ça, c'est la première chose. En Mugdam Mokhar Batorah, ben oui, au niveau de la disposition. Alors, Chutz Mizeh, au-delà de cela, ce qui a certainement échappé à Abraham Eshel, eh bien, c'est ce qui est marqué dans la Shirat Hayam. Hey, Shirat Hayam, Az Yashir Moshe, c'est évidemment, tout le monde est d'accord que ça se passe avant le Vaudor. Et là-bas, il y a marqué quoi? Eh bien, la conclusion de la Shirat nous dit, Teviyemo vetitaemo be'ar nachalatecha amachon neshiftecha pa'alta Hashem, Mikdash Hachem, connais-nous Yadecha. Il y a déjà, c'est-à-dire que, je traduis, excusez-moi, tu vas nous emmener et nous implanter dans la montagne de ton héritage, l'endroit où tu vas résider, le Mikdash de Dieu sera mis en place. Donc, il y a ici la notion de Mikdash bien avant la faute, quoi qu'il arrive. Donc, Abraham Michel a tort, le Mikdash est a priori, il n'est pas a posteriori. Je repose donc la question, alors pourquoi il n'apparaît pas dans les 10 commandements? Eh bien, il n'apparaît pas dans les 10 commandements parce qu'il n'a pas besoin. Il est les 10 commandements. Qu'est-ce que je veux dire par là? Seret Adibrot, c'est à Edout. C'est le témoignage, Mahamad Arsinaï, c'est le témoignage que Dieu nous parle. C'est-à-dire le témoignage de la présence divine dans ce monde. Le problème de Seret Adibrot, c'est que ça s'est passé sur le Arsinaï et que ça s'est donc arrêté au Arsinaï. La paracha, elle sera la construction du Mishkan, du Mikdash. C'est en fait des 10 commandements permanents, puisque le Mikdash est l'endroit où Akadosh Baruch Hu réside. Et donc, en fait, on n'a pas besoin de parler du Beth Amikdash dans les 10 commandements. On termine le processus de Mahamad Har Sinai à la fin de la paracha de Mishpatim, et on l'enchaîne directement par ce qui va permettre de cristalliser ce dévoilement dans l'éternité avec le Beth Amikdash. Une éternité qui a été un petit peu tronquée dans la destruction du temple, mais qui va revenir Bezrat Hashem. D'ailleurs, donc, ça nous explique quelle est la dimension profonde de Mikdash. Alors, comment ça se passe, cette histoire de Beth Amikdash? Veidaber Hashem el Moshe l'Emor. Ce verset est très important, on le connaît très bien, et Dieu a dit à Moshe de dire aux autres et de dire aux générations, d'enseigner. Ce verset apparaît 70 fois dans tout le Tanakh, enfin dans la Torah. Quoi. Et 70 fois Keneged par rapport aux 70 nations. C'est-à-dire qu'il y a ici, pas que ici, mais ici en particulier, dans le Mikdash, une dimension universelle. Et effectivement, quand on lit le Sefer Yeshayahu, le prophète Yeshayahu, Isaïe, nous dit que l'idéal du Beth Amikdash, c'est que Beiti Beit Tefila Ikare Lechol Ha'amim, que ma maison deviendra une maison de prière pour toute l'humanité. Donc, il y a ici, eh bien, une connexion avec Umot Ha'olam. Et c'est d'ailleurs ce qui est marqué ici. Regardez. Daber el Bene Israël, Veikrouli Teruma Me'et Kolish, Asheri Devenu Libo, Tikrou Et Terumati. Le verset, je voudrais le traduire littéralement pour que vous compreniez bien de quoi il ne s'agit pas. D'aber el bene Israël, parle aux enfants d'Israël, et donc quoi ? Veikrouli, et ils me prendront une terouma, un don, on va dire, met kolish acheridevenu libo, de chaque personne qui voudra bien donner, tikrou et terumati, prenez ma terouma. Moshe, on va dire que c'est A. On va dire que Dieu c'est A, Moshe c'est B, Am Israël c'est C, et donc A dit à B de dire à C de prendre quelque chose. Si Moshe veut que les Bnei Israël donnent, alors il faut que Moshe B, dans notre parallèle, dise à C de donner. Mais là, il demande à C de prendre. De prendre à qui ? À D. C'est qui D ? Ben écoutez les amis, c'est pas compliqué. Si Moshe demande aux Bnei Israël que les Bnei Israël prennent à quelqu'un d'autre, de chaque personne qui voudra bien donner, qui sont ces chaque personne qui voudra bien donner ? Eh bien, ce sont les goyim. Eh oui. Dans l'idéal du Beth Amikdash, eh bien, c'est aux goyim de participer aux dons qui vont permettre la création du Mishkan. Comme on va pouvoir le voir, par exemple, dans le premier temple, où Hiram Melertzor va donner les matières premières à David et à Shlomo pour construire le Beth Amikdash. Et évidemment, s'il y a une dimension universelle au Beth Amikdash, il y a évidemment une volonté de d'enrôler, si on peut dire, les nations dans le projet. Vous allez me dire, non mais c'est pas ce qui s'est passé. Nahon, bien sûr que c'est pas ce qui s'est passé. Dans la paracha de Vayakel, où on va commencer à construire le Mishkan, on va voir que non. On va voir que ça se passe uniquement à l'intérieur du peuple d'Israël. Regardez le verset. Je vous prends le verset dans Vayakel, qui commence la construction du Mishkan, mais... au chapitre 34, au verset 4, on nous dit Vayomer Moshe el kol adat bnei Israël, les morts, et Moshe a dit à toute l'assemblée d'Israël, Ze adavar asher tziva Hashem, les morts, voilà ce que Dieu nous a dit, Krou meitechem truma la Hashem, prenez d'entre vous. Donc là, c'est d'entre vous. Pourquoi ? Parce que quelle est la différence entre truma et vayakel ? Ben là, il y a eu le vaudor, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que l'idéal, c'était l'idéal, mais on a fauté. Et en tant que porteur de la faute, on n'est plus forcément légitime, on n'a plus une voix retentissante suffisamment pour aller parler au Motaolam. Donc il y a le projet, l'idéal dans notre paracha, et il y a sa réalisation une fois qu'on est tombé là où on est tombé. C'est peut-être aussi pour ça que le Mishkan n'a pas été l'idéal du dévoilement divin. Alors donc, il faut demander au Goïm de participer. Vezot a terouma asher tikrou mi'itam. Ah, quelle est donc la terouma qu'il va falloir prendre? Vezot a terouma asher tikrou mi'itam. Quelle est donc cette terouma? Eh bien, on nous dit, tu prendras la Babylone, la Perse et la Grèce. Non, il n'y a pas marqué ça, n'importe quoi. Il y a marqué Zahav vachesef unchoshet. De l'or, de l'argent et du cuivre. Comment ça ? De l'or, de l'argent, du cuivre ? Mais pourquoi alors tu as dit, enfin j'ai dit, Babylone, la Perse et la Grèce ? Eh bien tout simplement, je fais référence au rêve de Nebuchadnezzar. Dans le livre de Daniel, le roi Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, fait un rêve. Le problème, c'est qu'il ne se rappelle plus non seulement de la compréhension de son rêve, enfin, ça, il ne s'en rappelle pas, c'est pas qu'il ne s'en rappelle pas, il ne la connaît pas. Mais en plus, il ne se rappelle même plus du rêve qu'il a fait. Alors, il demande à tous ses conseillers, machin, personne n'arrive à comprendre. Et personne ne sait de quoi il a rêvé. Et Daniel va non seulement lui expliquer le contenu du rêve, mais va lui rappeler de quoi il a rêvé. Ce qui va donner d'ailleurs à Daniel une place prépondérante dans la cour de Nebuchadnezzar. Et il lui dit, voilà, tu as rêvé d'une grande statue. Cette grande statue avait une tête en or, un buste en argent, des hanches et des appareils reproducteurs en cuivre et des pieds en argile et en fer. Et là, Nebuchadnezzar lui dit, oui, je me rappelle, c'est de ça que j'ai rêvé. Il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je vais te dire. La tête en or, c'est toi. c'est Babylone, c'est ta royauté. Ensuite, eh bien, le buste en argent, c'est la royauté qui viendra après toi. Alors, nous, on sait, historiquement parlant, il s'agit de la Perse. Les hanches et les parties intimes en cuivre, ça sera la royauté qui viendra après toi, enfin après elle, etc. C'est-à-dire la Grèce, comme Alexandre qui a réussi à battre Darius III. Et les pieds en argile et en fer, c'est la royauté qui viendra après elle, encore une fois, et là, eh bien, c'est Rome qui a conquis la Grèce. En d'autres termes, Zav, c'est Babel, Kesef, c'est Paras, et Nechoshet, c'est Yavan. En d'autres termes, il faut donc, pour construire le Beth Amikdash, ce que nous apprend Babylone, ce que nous apprend la Perse et ce que nous apprend la Grèce. Avalma, qu'est-ce qu'ils nous ont appris ? Qu'est-ce qu'on a à apprendre de chaque chose ? Eh bien, c'est très simple. De Babylone, on va apprendre la notion de Malchut. Il est marqué dans le livre de Bereshit, à propos de Nimrod, qui a construit la ville de Babylone, « Vatei reshit mamlachto Babel ». C'est-à-dire que l'essence même de la royauté, c'est Babylone. Donc Malchut Hashem, on la comprend grâce à ce qu'on a appris de Babylone. Ensuite, Kesef ze Paras. Bah oui, bah ça c'est évident. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va prendre de la Perse à Kesef ? C'est-à-dire l'opulence. Vous allez me dire quoi ? Zahav, c'est pas moins que Kesef, d'accord ? Mais le Kesef, c'est la valeur qu'on lui donne. Pourquoi est-ce que la chose s'appelle Kesef ? L'argent, pourquoi ça s'appelle Kesef ? Parce que c'est ce que on est kosfim lo. C'est-à-dire qu'on lui donne cette valeur-là. En d'autres termes, la Perse, il n'y a qu'à lire le livre de Megillat Esther pour voir que ce qui était important, c'était la valeur qu'on pouvait donner à l'expression perse. Le père, l'éclat, la para. Tout le premier chapitre de la Megillat Esther nous montre l'opulence de l'Empire perse. Et enfin, la Grèce, évidemment, la chokhma qu'on va apprendre de Yavan. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas besoin aussi d'amener des choses qui viennent de Rome ? Il y a pour la simple raison que Rome n'a absolument rien amené au monde. Ah, comment ça, Rome n'a rien amené au monde ? L'Empire romain n'a rien amené au monde. L'Empire romain n'a rien amené... Hop là, excusez-moi. L'Empire romain n'a rien amené au monde en termes de contenu intérieur. Effectivement, l'Empire romain, c'était la Malchut. L'Empire romain, c'était l'opulence. L'Empire romain, c'était la sagesse. Oui, mais ils les ont à chaque fois piqués des autres cultures, des autres civilisations. C'est-à-dire que l'Empire romain est conquérant. La seule chose qu'il a léguée au monde qui vient de Rome, c'est la loi romaine, c'est-à-dire le cadre de la société, mais pas l'intériorité des choses. Et comment l'Empire romain s'est propagé ? Pas avec ses idées, comme a pu le faire Alexandre, comme a pu le faire l'Empire perse, grec, n'importe quoi aujourd'hui. Mais l'Empire romain s'est propagé par l'épée et par la destruction. Ainsi donc, eh bien, on ne rentrera pas l'Empire romain dans la construction du Mishkan. Barzel, on ne peut pas l'utiliser pour construire le Mishkan. Le Mishkan est l'endroit où on dévoile la source de vie. Le fer, l'épée, c'est l'ustensile avec lequel on ôte la vie. Il n'a pas sa place pour construire le Beth Amikdash. Donc, vous voyez qu'il y a ici une véritable volonté de s'approprier ce que les nations ont à nous donner. Alors, il y a Zahav, Vachesef, Unchoshet, mais il y en a d'autres. Il y a plein d'autres matériaux. Alors pourquoi je me suis arrêté là ? Parce que le verset s'est arrêté là. C'est-à-dire que volontairement, mon cher Aben, l'Akadosh Baruch Hu, nous dit, voilà, il y a ces trois-là et puis il y a les autres. Alors c'est quoi les autres ? Utrelet, ve'argaman, ve'tolat shani, ve'shesh, ve'izim, ve'orot elim me'odamim, ve'orot techashim, ve'atzeshitim. On est déjà à combien ? À 8. Ve'shemen lama'or. Bessamim le Shemen Amishra. Véliktoret Asamim. On est déjà à 10. Avne Shoam. Vavne Milouim. Laifod. Velachoshen. Nous sommes donc à 12 éléments. 12 éléments plus Zav, Chesef, Nechoshet. 15 éléments. Ces 15 éléments, Rabotai, c'est quoi ? Eh bien, ces 15 éléments, c'est tout simplement On les retrouve dans les 15 Shirei Ma'alot, dans les 15 Madrigot qui permettent à l'homme de s'élever de la dimension de, on va dire, Aolam Hazeh et d'arriver au Kodesh, à la sainteté. C'était les 15 marches qui séparaient la Ezrat Nashim jusqu'à la Ezrat Israël, là où on faisait les Korbanot et là où il y avait la dimension de Avodat Amikdash. En d'autres termes, il y a 15 dimensions qui nous permettent d'élever l'humanité à la Avodat Hashem. Et chacune de ces choses-là, dans l'idéal, devrait être prise de civilisation. Dans les faits, on a dit, ça va venir uniquement de Am Israël. Mais l'objectif donc du Beit Hamikdash, du Mishkan, à l'origine du Beit Hamikdash, est donc de révéler à l'homme, avec un grand H, comment il peut s'attacher à Akadosh Baruch Hu. C'est la reine, une fois qu'on a les matériaux, « Ve'asuli mikdash ve'shachanti betocha » Et ils me feront un mikdash. Rashi dira « Bait shel kedusha ». Mikdash, c'est « Bait shel kedusha ». Une maison de kedusha. Mais c'est quoi la kedusha? Quand on regarde dans le livre de Vayikra, il y a une mitzvah. On nous dit « Kedoshim tiyu ki kadosh ani ». Rashi là-bas nous dira, mais c'est Kedoshim Tiyu. Kedoshim Tiyu ki Kadoshani. En gros, c'est comme si Dieu disait, soyez blond parce que je suis blond. C'est-à-dire, on a un club de blonds, j'ai envie que vous soyez blond pour entrer dans le club avec moi et on rigole. Genre, je suis le seul à être Kadosh, soyez Kedoshim, comme ça on pourra jouer ensemble. Et en fait, Rashi nous dit, Atayel Imachem. Vous savez, il y a une grande différence entre la notion de Tiyul, balade, et la notion de Alicha. Alicha, c'est un déplacement d'un point A à un point B. L'objectif est d'arriver au point B. Le tioul, c'est très différent. L'objectif n'est pas d'arriver au point B. L'objectif est de passer du temps ensemble. Il y a une réunion de travail où on a plein de choses à discuter. Et quand on a fini de discuter, la réunion se termine. Et il y a un repas d'amoureux. Même s'il n'y a rien à manger, on a envie d'être ensemble. Donc les amis, c'est de ça qu'on parle. Vasuli Mikdash, Bait Shel Mifgash. Et c'est de ça qu'on parle. Le Beit Hamikdash, son rôle, c'est d'avoir cette rencontre entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu. Vasuli Mikdash, Veshachanti Betocham. Et là, il faut que je vous raconte. Voilà, je l'ai dit en cours, je le redis sur tous les internets. Je me suis marié Parashat Terouma. Ce qui veut dire que on s'est marié avec ma femme un jeudi soir. Et donc, le Shabbat qui suivait, c'était Parashat Terouma. Ah, maman. Lorsque j'ai fini ma formation, ma préparation pour le mariage, tout ça, alors, dans le dernier cours, le Rav Cherki, Shlita, eh bien, m'a expliqué les dernières choses à savoir. Et on a commencé à discuter un petit peu. Dans deux jours, voilà. C'était la veille ou l'avant-veille du mariage, je ne sais plus exactement. Mais il dit, bon, regarde, le Rav allait être mon témoin. Ce n'est pas lui qui allait me marier, parce que celui qui allait me marier, c'était mon oncle, le grand rabbin Bruno Fison de Metz. Ah, famille, hein, donc Kavod. Et le Rav Cherki me dit, tu verras, sous la roupa, ton oncle, il va faire le Dvar Torah et tout, et il va dire, je peux te l'assurer, va sous le Mikdash, je shachanti betochan, et ils me feront un Mikdash, et je résiderai en eux. Et on ressent tout de suite la problématique au niveau de la grammaire, parce que ben, sous le Mikdash, normalement, ça aurait dû être marqué « et je résiderai en lui », dans le Mikdash. On dit non, en eux. Et là, le Rav me dit, tu vois, ton oncle, il va dire, et ainsi que nos sages nous l'expliquent, « Chazal, betochol onemar et la betocham », il n'est pas marqué en lui, mais en eux, dans chacun des béné Israël. Même si l'explication est très vraie, et qu'on la retrouve chez plein de rishonim, elle est marquée nulle part chez Chazal, c'est-à-dire dans le Talmud Bavli, Yerushalmi, dans les Midrashim. C'est quelque chose que tout le monde dit que ça vient de Chazal, mais on ne sait pas d'où ça vient, de Chazal. Mais en tout cas, c'est vrai. Sous les Mikdash, Veshachanti Betocham. Tu ne crois pas, sous la Choupa, ça n'a pas manqué, mon oncle a dit. Et donc, comme on dit Chazal, Sous les Mikdash, Veshachanti Betocham, Betochol, Onéhémar, et la Betocham. Et à ce moment-là, je regarde le Rav, il me regarde, il me fait. Et voilà. Maintenant, de quoi on est en train de parler, Rabotai? Vasuli Mikdash Veshachanti Betocham. C'est-à-dire que d'abord le Mikdash, son but c'est la Shrina. Shrina, c'est Milashon Shachen. c'est celui qui est face à moi. Le but du Mikdash, c'est de faire en sorte qu'entre Dieu et moi, il y a une dimension de rencontre et de Mifgash Panim El Panim, que je puisse le voir. Lui, il va me voir, évidemment, mais que je puisse le voir. Et donc, il résidera dans le Mikdash, mais en chacun d'entre nous, parce que nous, on vient au Beit HaMikdash. Alors, comment on fait ? De manière théorique, hein, on est encore dans la théorie. Comment on fait pour réaliser ce Mikdash, c'est-à-dire ce lieu de rencontre avec HaKadosh Baruch Hu ? Quelles sont les différentes parties qu'on va trouver dans ce Mikdash ? On a compris quels étaient les matériaux, mais quelles sont les différentes parties ? Eh bien, les amis, ça, c'est ce que nous allons essayer de commencer à expliquer dès ce soir. Voilà, le cours a été moitié plus rapide que la semaine dernière. Bah oui, bah, quand il n'y a pas de questions, ça va plus vite. Et donc, pour ceux qui veulent, on se retrouve ce soir à 19h pour le cours dans la synagogue de Emouna. Voilà, à tout à l'heure. Pas le tout.